cette journée très intéressante. Je suis vraiment contente d'avoir entendu tout ça et de participer aujourd'hui. Donc, je ne suis pas soignante et je travaille effectivement sur l'art brut. Je vais commencer par vous montrer immédiatement un extrait de film qui date de 77, qui est muet, donc c'est normal si vous n'entendez rien. Je vais parler par contre en même temps, comme ça... Donc Pierre Avezard, que l'on voit ici, est né en 1909 à Vienne-en-Val, dans le Loiret, avec le syndrome de Treacher-Collins. Il était dit sourd-muet. Son corps et son visage étaient perçus comme difformes. En tant qu'infirme de naissance et selon les usages, en milieu rural au siècle dernier, Pierre Avezard, devenu adulte, travaille dans une ferme à Feuillot-Loges en échange d'un toit et de nourriture. En 1937, il installe un pédalier dans son étable et y raccorde un carrousel et quelques premières figurines fabriquées à partir d'objets de récupération. Au jour le jour, il complète et augmente son installation. En 1955, le propriétaire de la ferme lui octroie cette parcelle de terrain que l'on voit ici, sur laquelle son manège va recevoir ses premiers visiteurs et prendre l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Il s'agit d'un enchâssement de mobiles, donc, et de scénettes animées entre lesquelles on peut circuler. C'est un véritable environnement. Cette œuvre est désormais connue dans le secteur de l'art brut sous le nom de manège de Petit Pierre. Elle a été réinstallée après le décès de Pierre Avezard dans le parc du musée de la Fabuloserie qui se trouve à Dissy, dans l'Yonne. On peut le visiter. Le film que je vous montre là a été tourné donc par un proche de Pierre Avezard en 1977 et il a été partagé donc sur YouTube il y a 6 mois par Michel Avezard. Donc il est parfaitement accessible, vous pouvez voir la fin plus tard si ça vous intéresse. Je me suis donc intéressée à la place qu'occupait le corps de Pierre Avezard dans ce manège, sur le plan physique et topographique, comme sur le plan, disons, structurel de son œuvre. Pierre Avezard vit avec son manège, sa maison est mitoyenne, et il se trouve présent sur les lieux quand il accueille son public, et plus particulièrement dans cette cabine où on le voit ici. Je précise d'emblée, donc, Pierre Avezard n'a pas fait de son aspect physique sortant de l'ordinaire, de sa différence, une attraction parmi les autres dans son manège. Ce n'est pas elle qui est exposée. Mais il est visible. Son manège ne lui sert pas non plus à masquer cette différence ou à corriger son apparence. On l'a vu ici donc actionner un jet d'eau, c'est un gag hydraulique, il y en a d'autres dans le manège, je vous en parlerai donc pendant l'intervention. Donc ce manège est un environnement dans lequel le corps de Pierre Avezard est agissant et visible pour les autres. J'ai longtemps étudié cette œuvre, en vérité, non sans tenir compte de son contexte général, donc le monde paysan, la Seconde Guerre mondiale, le développement des techniques agricoles, etc. Mais je n'établissais pas le lien avec l'apparence de Pierre Avezard. La première raison à cela, c'est ma discipline d'origine, donc l'esthétique des arts, qui ne fait pas de l'articulation entre une œuvre et la biographie ou la personnalité de l'auteur son problème principal. Concernant Pierre Avezard, on va lire parfois que son manège aurait fait oublier son handicap, que son œuvre se déploie sur un plan autonome, et que ce serait même pour ça qu'elle relèverait de l'art. Bon, je crois qu'il serait plus juste de dire que c'est l'esthétique qui préfère faire abstraction du handicap de Pierre Avezard pour plusieurs raisons, dont beaucoup d'ailleurs sont fondées, c'est-à-dire que ça donne effectivement des résultats. Bon, mais je ne vais pas m'étendre. Il se trouve aussi que le manège de Petit Pierre donne donc beaucoup de grains à moudre au regard et que le recours au trait spécifique de l'auteur n'apparaît pas immédiatement nécessaire à l'analyse esthétique de cet objet. Une telle analyse était déjà tout un programme, car il est gigantesque et fourmille de détails. Lorsque je me suis rendue sur place en 2016, je m'étais déjà quelque peu déplacée relativement à ma première approche du manège. J'y voyais une œuvre cinétique, une œuvre toute faite de mouvements et de leur transformation. C'était le génie mécanique de Pierre Hazard qui m'intéressait. Par ailleurs, je l'avais bien noté, l'entretien, les réparations, le fonctionnement du manège requéraient l'intervention physique de ce génie. Le corps de Pierre Hazard avait donc sa place dans la grille d'analyse que j'étais en train de construire, mais c'était alors un corps strictement fonctionnel dans mon esprit, un corps mécanicien. Ce n'était pas un corps vu. Je l'avais vu pourtant, mais... La cabine où se trouve Pierre Hazard, pendant que le public visite son manège, c'est donc ici, en violet, sur mon schéma. Donc dans le film, on le voit sortir assez aisément de cette cabine, mais il se trouve à ce moment-là entouré de ses proches, de sa famille, donc c'est pas une visite comme les autres. Cette cabine est donc située à côté de l'entrée et sortie des visiteurs. Elle abrite aussi le moteur et les engrenages principaux du manège. Elle est ouverte sur l'extérieur et permet à son créateur de garder un œil sur l'ensemble de son manège. Je suis entrée dans cette cabine avec pour projet, donc, d'examiner l'équipement de Pierre Hazard, les rouages principaux du manège, d'explorer ce qui m'apparaissait comme le cœur fonctionnel de ce manège. Entre des bidons d'huile et autres ustensiles de cuisine, j'ai découvert ceci, un miroir. Mon travail de repérage s'est suspendu pendant quelques secondes. Je me souviens de m'être sentie quelque peu hébétée, de pouvoir me voir dans ce miroir, au point que j'hésitais à me cadrer correctement dans son ovale. Bon, j'ai fini par y entrer un petit peu, hein, vous voyez. J'ai aussi remarqué le pourtour de ce miroir. Je me rapproche un peu. Il est cerclé d'un camaïeu de rouge, de pourpre et de beige. À la base de son manche, ici à l'envers, on peut lire ces mots « Sur vos lèvres et vos ongles ». Ceci m'a fait sourire, m'a ému aussi, et j'ai pris cette photographie pour garder une trace de ce drôle d'instant à titre personnel. Ce n'est qu'une fois de retour à Lille, en reprenant mes notes, que j'ai pris le temps de réfléchir à cet événement, car c'en était un. Par ce miroir, la question de l'apparence de Pierre Hazard a fait un retour imprévu dans l'analyse que j'étais en train de faire de son œuvre. L'ovale de ce miroir avait délimité sous mes yeux la place réservée au reflet du visage de Pierre Hazard, et symétriquement sa ligne de mire, son regard. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais hésité à y faire apparaître le mien, pour ne pas lui confisquer cette place. Je réalisais cette évidence, que Pierre Hazard avait peut-être besoin de vérifier son apparence, tandis qu'il accueillait des visiteurs. Cette apparence et ce regard avaient donc cette place au voisinage, sinon dans l'œuvre que j'étudiais, et il m'était impensable tout à coup de les leur dénier. Puis le nuancier d'ongles vernis, tout autour du miroir, m'a renvoyé au stéréotype de son destinataire originel, coquet et féminin. Un miroir plus sobre, un rétroviseur de tracteur, aurait pourtant suffi à Pierre Hazard. Ils étaient assurément plus faciles à trouver que ce miroir-là. Il s'agit peut-être d'un cadeau promotionnel offert par une boutique de maquillage. Mais enfin, ce style de miroir apparaît plutôt impromptu parmi les effets du vacher de ferme. Ceci n'en fait pas une exception. Au regard du manège de Petit Pierre dans son ensemble, dans tout leur caractère de cliché, la tour Eiffel, l'atonium de Bruxelles, le métro aérien sont autant d'intrus dans l'imaginaire directement associé au territoire rural de cette œuvre. Le choix de ce miroir procède en somme de la même poétique que ses autres composantes du manège. Détournement, télescopage et peut-être humour. Car oui, c'est avéré. Pierre Hazard avait un sens de l'humour et de la dérision très affûté. Les gags hydrauliques donc, qui scandent la visite de son manège le confirment. Et peut-être, ce n'est pas sûr, mais peut-être, que le décalage entre le stéréotype du vacher innocent, ainsi qu'on qualifiait les sourds-muets dans le monde paysan, et celui de la femme coquette, soucieuse de son élégance jusqu'aux détails, pouvait le faire sourire. Quoi qu'il en soit, cette parure de miroir surenchérit sur la thématique de l'apparence amenée par la fonction même du miroir, et ce faisant, elle produit un effet de distanciation heureuse. Sans interdire à Pierre Hazard de voir son reflet et d'en faire bon usage, cette couronne d'ongles disposée en pétales tout autour de lui pouvait aussi l'en distraire. Ainsi, ce miroir est non seulement fonctionnel en tant que miroir, mais aussi très pratique pour celui qui éprouve quelque inquiétude à s'y voir, comme les autres le voient. Ce miroir se trouvant par ailleurs au cœur de l'œuvre de Pierre Hazard, tout près de son moteur technique, ici donc, j'ai posé par hypothèse qu'il s'agissait d'un autre moteur du manège, son moteur psychique. De quoi serait donc fait ce moteur psychique ? D'une place réservée au reflet du visage, donc le miroir lui-même, entouré non plus seulement d'une frivole parure, mais d'un opérateur de distraction, de mise à distance, une palette de vernis à ongles. Or, ce schéma peut s'appliquer au manège dans son ensemble. Donc une place réservée au corps visible, celui qui prend la lumière, entouré non plus seulement d'une fantaisie récréative, mais d'un opérateur de distraction, d'attraction et de mise à distance, que je vais donc décrire maintenant. Le manège de Petit Pierre a commencé à attirer des visiteurs 20 ans avant d'être valorisé dans les secteurs artistiques. C'était loin de déplaire à son auteur, cet effet d'attraction qu'il produisait a orienté la suite de son élaboration. Entre 55 et 75, Pierre Hazard aménage un parking. Il flèche le chemin pour accéder à son manège, et surtout, il érige sa tour Eiffel, 23 mètres de hauteur, ce qui le rend visible de très loin dans le paysage de la Sologne. Il entend bien, par tous ses moyens, rassembler une communauté de regards dans cet espace où il se trouve. Toute cette panoplie d'éléments attractifs s'accompagne d'une signalétique informant le visiteur des règles à observer. Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte du manège. Il est interdit d'y fumer pour des raisons de sécurité. On y entre par salve de 15 à 20 personnes. On attend son tour. Toutes ces prescriptions maintiennent le visiteur à sa place d'invité. Il est le bienvenu, il n'est pas chez lui. Il est libre de partir. Attendez votre tour ou partez, s'il vous plaît. Depuis l'entrée, le visiteur bénéficie d'une vue panoramique sur le manège. Sur un arc de cercle allant de la tour Eiffel, donc immédiatement en face de lui, jusqu'à sa droite, il y a un aérotrain qui tourne à hauteur de son œil. Le paysage est très impressionnant. Les différents mobiles du manège, animés de vastes mouvements giratoires, s'enchevêtrent du sol jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Donc ici. Immédiatement sur la gauche du visiteur se trouve la cabine de Pierre Hazard. S'il y prête garde, le visiteur pourra y lire qu'on lui propose un air de musique avant la sortie. Le sens de la visite qui s'impose à l'intuition, donc c'est bien le sens usuel, est confirmé. On se dirige vers la droite, par là. À ce stade, il n'est pas exclu que la silhouette ou le visage de Pierre Hazard soit apparu dans le champ de vision du visiteur. Pour autant, en termes de spectacle, les attractions situées sur sa droite gardent le dessus. Avec l'indication expresse du sens de la visite, ou vers la droite, elles sont, à cet instant, un opérateur de distraction autour de l'apparence de Pierre Hazard. Elles vont nous suivre jusqu'à sa cabine. D'ici là, on a un entrelac d'attractions et de prescriptions qui se prolonge. Regarde bien la vache électrique, lit-on entre les figurines. Cependant, les adultes sont priés de surveiller leurs enfants qui ne doivent pas toucher aux figurines. De scénette en scénette, l'accord se cherche et s'ajuste entre Pierre Hazard et ses invités, tous regardant et regardés. Cet ajustement progressif prend un tour ludique avec le recours à l'imaginaire du danger, du risque, les pompiers, les avions, ainsi que ce premier gag hydraulique, l'homme qui boit, qu'on nous invite à bien regarder avec une pancarte. Il en jaillit un jet d'eau. C'est Pierre Hazard lui-même qui, depuis donc en face, le déclenche et signale ainsi à ceux qui l'auraient démasqué que réciproquement, lui aussi peut les voir. Le manège pouvait aussi tomber en panne pendant les heures d'ouverture. D'après les témoignages, elle survenait assez régulièrement, ces pannes, et faisait partie du jeu. Bien qu'invérifiable, une part d'orchestration à l'origine de ces pannes peut être subsumée. Alors, pour réparer son manège, Pierre Hazard devait accéder au mobile situé en altitude, en empruntant des voies prévues à cet effet. Son frère en a témoigné. Depuis son enfance, Pierre Hazard se sent apaisé lorsqu'il se trouve en hauteur. il se réfugiait sur les toits pour échapper aux moqueries et aux rejets. Les images de Pierre Hazard en train de réparer son manège sont prises pour la grande majorité d'entre elles depuis un point de vue distant, qui tend à indiquer que les visiteurs étaient conviés à quitter l'enceinte du manège pendant les pannes. Le corps de Pierre Hazard est alors en pleine lumière, mais il n'était donc visible que de loin, à contre-jour, et surtout agissant. La visibilité de son corps est corrélative de sa mise en œuvre mécanique. La visite reprend. En fin de parcours, le public du manège se rassemble autour de la cabine où se trouve Pierre Hazard. Il propose un air de musique. Ses invités sont censés se comporter en auditeurs plutôt qu'en spectateurs. Des éléments sont disposés devant lui et peuvent le représenter aux yeux des visiteurs. Il y a son nom complet, sa fonction sociale, Vaché à la ferme de la Coinche. Et cette figurine, que j'ai entourée en jaune, qui porte une cithare, et que l'on peut considérer comme un avatar de Pierre Hazard. Pierre Hazard est à l'ombre, il dispose d'une marge de recul derrière lui, tout ceci ne prive pas les visiteurs de leurs yeux, évidemment, ni Pierre Hazard de toute apparence. On trouve à côté de toutes ces figurines devant lui cette vache, qu'une pancarte nous dit de bien regarder encore une fois. Il s'agit d'un nouvel automate hydraulique, on l'a vu fonctionner tout à l'heure. À ce stade de la visite, le visiteur est averti. Cette vache est fort stratégiquement située, donc elle va envoyer un jet d'eau, comme l'homme qui boit. Elle est posée sur un socle rotatif, ce qui permet à Pierre Hazard de viser quelqu'un en particulier avec une certaine précision. Par ailleurs, le jet ne jaillit pas de la bouche de la vache, mais de son arrière-train. La blague est donc intensifiée. À s'en tenir au film qui en témoigne aujourd'hui, ce jet produit un double effet. Il fait rire les visiteurs, bien sûr. Il les fait en même temps reculer. Les deux ensemble sont importants. Pierre Hazard se réserve ainsi le pouvoir d'agir sur la distance depuis laquelle les visiteurs le regardent, et en même temps sur ce qu'il lui montre d'eux, ses visiteurs, tandis qu'ils le voient, c'est-à-dire sur l'émotion qui se traduit sur leur visage. Assurément, tout cet équipement protège Pierre Hazard de certains types de regards. Enfin, peut-on vraiment appeler ça des regards? Je dirais plutôt, ça le protège de formes d'exploitation scopique non consenties, mais aussi des formes d'exclusion scopique. Car tout cet appareil n'empêche pas de regarder Pierre Hazard, de tisser avec lui cette relation digne de porter le nom de regard. Je dirais même qu'il y invite. Bel appareil à rendre le regard possible, en somme, que tout se manège. Merci.